Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Plutôt qu'on parle évidemment à 30 km/h ou automobiliste en général, ça fait réagir, c'est bien normal. On est déjà avec Christian qui est chauffeur de direction, donc qui est un professionnel qui roule dans Paris. Bonjour Christian.
Bonjour Pascal.
Vous êtes pour, j'imagine, les 30 km/h.
Non, je suis plutôt contre les 30 km/h.
Oh, vous m'étonnez, dites-moi.
Parce que dans Paris, si vous voulez...
Et vous roulez jamais à 30 km/h dans Paris. Mais on en parlera tout à l'heure. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, ce passe sanitaire. Hein, depuis ce matin, près de 2 millions de salariés, 1 800 000 précisément, sont désormais soumis à la règle. Il s'agit des secteurs où ce passe est déjà exigé pour les clients depuis plusieurs semaines. La restauration... notamment un pass qui n'a pas eu d'impact sur l'activité économique du pays. Ça, c'est ce qu'indique ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui reçoit par ailleurs les différents secteurs qui ont été aidés ces derniers mois pour faire le point sur la fin du quoi qu'il en coûte. Le fonds de solidarité sera bien supprimé au 30 septembre, mais il est donc prolongé pour tout le mois de septembre jusqu'au 30, sauf pour l'outre-mer, là où il sera maintenu au-delà. Petit coup d'œil à notre météo, c'est avec vous Louis Baudin. Encore pas terrible aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera beaucoup mieux demain.
Oui, à partir de demain, c'est vrai. Là, on parle bien sûr pour la moitié nord, parce que dans le sud, alors quand je dis le sud, c'est au sud de l'île de La Rochelle, Genève à peu près. Mmh. On a eu du grand soleil ce matin, on en aura encore cet après-midi, quelques nuages comme sur les reliefs. Et dans la moitié nord, là, c'est vrai que ça reste plus aléatoire, avec quand même l'espoir d'avoir un peu plus d'éclaircies cet après-midi que durant la matinée. Température à peu près de saison. Alors demain, c'est la même chose, au réveil. Dans la moitié nord, on aura quelques passages nuageux, mais par rapport à aujourd'hui, dans l'après-midi, là, le ciel se dégagera beaucoup plus franchement. Donc ça finira par donner un temps très ensoleillé. Beaucoup de soleil également dans la moitié sud. À surveiller juste un petit risque d'orage sur les Pyrénées, les Alpes en toute fin de journée. Et demain, les températures sont comparables à celles d'aujourd'hui. Le matin, entre 11 et 15 degrés, un peu plus près de la Méditerranée. L'après-midi, 21 à 24 degrés dans la moitié nord et 25 à 30 degrés dans le sud.
Bon, et si j'ai bien compris, c'est en fin de semaine que ça se gâche.
Oui, ça a l'air. Alors après, on aura plutôt de belles journées en milieu de semaine, mais c'est vrai qu'à partir de samedi...
Il y a du soleil dans la semaine, mais quand le week-end arrive, il fait pas
attendez, bon. Attendez, déjà,
quand,
il y a du soleil
quand
dans
les vacances
semaine.
Sont terminées, le soleil arrive.
Ah, non, non,
c'est vraiment, c'est bien. Vous
pour la rentrée
exprès,
scolaire,
en fait.
Il va faire beau.
Oui, mais bien sûr, je fais
c'est
exprès.
Important.
Faut se remotiver pour revenir travailler, mais non, j'y suis pour rien. Samedi et dimanche, donc, de nouveau quelques averses. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il est pas impossible que l'été revienne encore un peu. Donc, vous voyez,
Dès que c'est le lundi.
Voilà.
Dès que c'est le lundi et dès que les vacances se terminent, le soleil arrive. C'est le principe.
Voilà, ce sont les prévisions d'aujourd'hui, en tout cas.
Merci beaucoup, Louis.
Merci à vous, Amandine. Vous roulez comment? En trottinette, en métro,
en voiture? À 30
km/h. Je l'espère. Il est 13h02 et nous parlons des 30 km/h.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Christian, qui est chauffeur de direction. Bonjour, rebonjour.
Rebonjour Pascal.
Bon, c'est vrai que 30 km/h dans Paris, c'est difficile de les atteindre.
Mais écoutez, 30 km/h sont très difficiles à atteindre, même les 50 avant. On n'arrivait pas à les atteindre. Par contre, on n'a jamais roulé à 50 ou à 30. On a plutôt roulé à entre 10 et 15 km/h dans Paris. Donc je ne vois pas pourquoi Mme Hidalgo change le système dans Paris, de passer de 50 à 30 km/h, sachant qu'on n'a jamais dépassé les 15 km/h.
Voilà. Il y a peut-être une part d'idéologie, disons-le, et puis un signe également que la maire de Paris souhaite envoyer, qui va dans le même sens d'ailleurs, c'est-à-dire plus de voitures dans Paris, c'est ça qu'elle veut, sauf vous d'ailleurs, qui êtes encore un professionnel, vous aurez le droit de rouler, mais si les voitures des particuliers pouvaient disparaître de l'asphalte,
l'axe de Paris, oui, bien sûr.
Voilà, je pense que Mme Hidalgo serait contente. C'est comme ça que je l'interprète.
Mais je suis tout à fait d'accord, comme moi je l'interprète également. Mais alors il faudrait que Mme Hidalgo montre aussi l'exemple, c'est-à-dire qu'elle se déplace, et qu'elle se déplace à 11 km/h, mais pas à 55 km/h parfois, avec des motards qui ouvrent la route. Voilà.
Donc, elle a des motards? Vous croyez qu'elle a des motards?
Oui,
Anne Hidalgo,
oui.
Je ne suis pas sûr.
Bon, parfois sur des réceptions où elle est assez pressée.
Le motard, généralement, pense, c'est pour...
Je pense qu'elle est ouverture. Mmh. Mais bon, ça,
mais c'est pas vraiment le sujet non plus.
Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, je pense que c'était passer de 50 à 30 km/h pour séduire un électoral qu'elle a déjà séduit. Et,
oui, parce que les Parisiens sont pour. Il y avait un sondage de l'IFOP que j'ai vu passer. 61% des Parisiens sont pour.
À 61%, mais qui habitent où? Dans le 5e, dans le 4e, dans le 5e, et qui se déplacent à vélo.
Bah, c'est des Parisiens, qu'est-ce que vous voulez, Christian? Voilà, c'est des Parisiens qui ont réélu Madame Hidalgo.
Oui, mais
ils veulent cette politique.
D'accord. Mais il faut se dire que dans Paris, la plupart des gens qui rentrent dans Paris, ce ne sont pas que des Parisiens, ce sont des gens qui habitent sur les communes.
Oui, mais ils ne votent pas, ceux-là.
Voire sur les banlieues. Donc,
oui, mais ils ne votent pas. En tout cas, ils ne votent pas à Paris.
Ah, ils ne votent pas, mais ils rentrent dans Paris. Ils participent à l'économie parisienne. Parce que la personne qui habite dans le 93, par exemple, ou dans le 78, ou dans le 91, qui va rentrer dans Paris pour pouvoir travailler, qui va se faire flasher à 35 km/h, l'amende va bien revenir quand même dans les caisses de la commune de Paris.
Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'ils ne votent pas d'une manière ironique. C'est-à-dire, ouais, elle s'en fiche. Peut-être, Madame Hidalgo, parce que précisément, ouais, ce ne sont pas des électeurs et qu'elle pense à ses électeurs. Peut-être.
Elle pense à ses électeurs.
Ça peut exister parfois.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais moi, je pense que dans Paris, actuellement, on n'a jamais roulé à plus de 25 km/h. Et ça, on peut le vérifier. Donc, je ne vois pas pourquoi passer directement à 30 km/h. Hormis, alors, si vous voulez, pour que Madame Hidalgo fasse comme dans la City à Londres, on met des péages dans Paris, on paye et on rentre dans Paris. Peut-être que là, il y aurait peut-être moins de pollution, comme on pense croire qu'on va diminuer la vitesse sur l'impact de la pollution. Il y aura moins d'accidents, ça c'est encore à voir, parce que je vous dis, on n'a jamais roulé à une vitesse de plus de 50 km/h dans Paris. Donc voilà, donc faites des péages dans Paris, Madame Hidalgo, et peut-être que là, on va solutionner.
Eh ben merci beaucoup Christian, vous étiez le premier auditeur de la semaine, c'est un sujet qui va nous intéresser, il y aura le pass sanitaire également, vous pourrez intervenir sur tous les sujets d'actu. Je pense à Messi, bien évidemment. J'ai vu également que Eric Woerth propose qu'on puisse voter dans deux endroits à la fois, pour les élections municipales, résidence principale et résidence secondaire, donc pourquoi pas. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Benjamin Sportouche, qui est le chef du service politique de RTL, me précise qu'a priori il n'y a pas de motard pour Anne Hidalgo à sa connaissance. C'est ce que je pensais également, c'est ce que je disais à Christian, qui est un chauffeur de direction. Voilà qui est
Benjamin Sportouche veille et nous écoute.
Et comment?
Et il est bienvenu, hein, il passe quand il veut à la maison.
Mais généralement pour nous donner des informations de premier ordre. Quand je lui pose une question, il dit je ne sais pas. Mais ne pas savoir, c'est déjà effectivement. Alors il ne dit pas que ça, bien évidemment. Mais souvent, je lui pose des questions et par définition, on faut attendre.
C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission au standard et sur nos réseaux sociaux.
Une mesure dont on n'a pas fini de parler. À partir d'aujourd'hui, Paris est limité à 30 km/h.
La mesure était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo.
Ça dit, la capitale ne fait que suivre le mouvement, hein, car plus de 200 communes en France sont déjà limitées à 30, au moins en partie.
Faut-il limiter la vitesse à 30 km/h en ville? Peut-elle être respectée? Notre spécialiste auto, Christophe Bourroux, a sorti la voiture ce matin. Résultat?
Nous avons alors scrupuleusement respecté la limitation de vitesse, 30 km/h. Et bien on s'est fait doubler déjà une bonne trentaine de fois, beaucoup par des camions de véhicules de livraison à
en ville.
Matinale. En ville, on sent que lorsque vous respectez cette limitation, bien ça agace, ça énerve l'automobiliste derrière vous qui a tendance à vous coller.
Et la ville de Grenoble a déjà adopté le 30 km/h en ville et les résultats sont là. Gilles Namur est l'adjoint au maire chargé des mobilités.
Un bilan très positif, un nombre d'accidents en forte diminution, on passe de 70 accidents par an en moyenne à 50, c'est un nombre de victimes piétons qui est divisé par deux, on passe de 28 à 14 en moyenne par an. Et des effets collatéraux positifs comme moins de bruit, une baisse de 3 décibels, ce qui diminue le bruit par deux.
Des arguments remis en cause par Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, était l'invité de RTL Midi.
Les villes à 30 observent la même baisse de l'accidentalité que les villes qui sont restées à 50. Donc dans le final, ça ressemble beaucoup à de la propagande.
Mais alors, plusieurs questions se posent. La limitation de vitesse à 30 km/h est-elle essentielle?
Oui, on m'avait dit que c'était pour éviter l'effet accordéon. Moi, j'ai tendance à dire que les écologistes se sont trompés d'instrument de musique. C'est plutôt l'effet pipeau, tout ça.
Est-on en train de faire une nouvelle chasse aux automobilistes? La réponse d'Olivier Schneider de la Fédération des usagers de la bicyclette, invité de RTL Petit Matin.
Le but, c'est pas de taper sur les automobilistes. Le but, c'est de faire en sorte que demain ne choisissent la voiture que ceux qui en ont vraiment besoin.
Cette limitation sert-elle vraiment vraiment à quelque chose? Arrive-t-on déjà à l'atteindre en ville? Exemple à Paris avec Christophe Bourreau.
Malgré la circulation encore assez fluide, si je regarde là notre tableau de bord, on est à 14 km/h de moyenne. Donc ce qui est d'ailleurs pas mal pour la capitale, parce qu'en journée la moyenne est de 11-12 km/h. Donc le risque de PV pour excès de vitesse risque d'être assez rare en centre-ville.
Dans Paris, à vélo, on dépasse.
On l'aura usé jusqu'à la corde, cette chanson de Joe Dassin. Mais j'avais écouté M. Schneider ce matin, et pour tout dire, j'avais été très choqué quand il dit seuls les gens qui ont besoin de la voiture doivent la prendre. Mais enfin, si j'ai envie de prendre ma voiture, si ça me fait plaisir de prendre ma voiture, j'ai le droit quand même de rouler en voiture. Monsieur Schneider, tout le monde n'est pas en bicyclette.
Ou en trottinette.
Mais non, j'étais fasciné parce que c'est des sujets où il y a beaucoup d'intolérance, beaucoup d'idéologie, et qui rejoignent d'ailleurs un peu parfois les sujets de la pandémie, et on en est rendu à dire « seuls ceux qui ont besoin de leur voiture doivent la prendre ». Bon, ben non, j'ai aussi le droit de la prendre si ça me fait plaisir. Ça s'appelle la liberté. On va être avec Serge, tiens, qui est gérant d'auto-école. Bonjour Serge, qu'en pensez-vous ?
Bonjour Pascal. Alors, je suis d'accord avec vous sur les propos des cyclistes là qui sont un petit peu fatigants. Alors moi, mon métier, l'auto-école, c'est la pédagogie. Si on utilisait un peu plus la pédagogie, ça pourrait permettre justement, non pas de justifier, mais enfin d'expliquer en tout cas cette situation-là. Le fait de se mettre à 30. Moi, j'habite à Cherbourg. Cherbourg étant le centre-ville, l'hyper-centre de Cherbourg, est à 30 km/h depuis déjà bien longtemps. Et on y constate beaucoup moins d'accidents. Hein, j'ai repris un petit peu quelques chiffres. 30 km/h, 5% de probabilité de tuer. 50 km/h, 45% de probabilité de tuer. Ces chiffres-là, ça parle. Sauf que les élus prennent des décisions. Mettre des routes à 30, et j'ai l'exemple devant mon auto-école, puisqu'on vient juste de passer au mois d'août à 30 km/h, et que personne ne respecte les vitesses à 30 km/h. À tel point que ce matin, j'ai croisé le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, qui a failli se faire un vélo sur un trottoir, parce que le vélo roulait sur le trottoir, et une voiture qui l'a empêché de passer, alors que il était sur un passage piéton. Donc la difficulté, c'est ça, c'est la pédagogie et les explications. 50 km/h, c'est l'équivalent d'une chute d'un immeuble de 3 étages. À 30 km/h, les dégâts sont forcément moins importants.
J'entends ce que vous dites, mais la difficulté de ces sujets, c'est de trouver la bonne mesure. Sur autoroute, évidemment, si tu passes de 130, si vous passez de 130 à 110, sans doute qu'il y aura encore moins d'accidents. Mais alors, on s'arrête où ? C'est ça la difficulté.
Alors, je vais vous donner un autre exemple. À côté de Cherbourg, à 20 km, on a une ville qui s'appelle Valogne. Valogne, le centre-ville est passé à 20 km/h. En zone de rencontre, 20 km/h. Ils ont enlevé tous les feux. Ils ont mis des ronds-points à 20 km/h. Moi, j'étais complètement perplexe. Je me disais, ça ne va jamais fonctionner. Ça fonctionne hyper bien.
20
km/h. C'est-à-dire que moi, j'ai 20
km/h. Mais les gens roulent en marche arrière, alors ?
Non, les gens roulent à 20 km/h. Et j'ai été faire des relevés de vitesse avec un radar pocket.
20 km/h.
On a dans les auto-écoles.
On peut pousser sa voiture aussi. Hein. On peut pousser comme ça. C'est...
Non, mais les gens respectent. Je veux dire, après, on
à
peut.
À 20 km/h ?
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Et là, il faut avancer vraiment à pas compter.
Eh ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous touchez à 20 km/h, il n'y a pas de dégâts. Moi, gars qui a détruit ma bagnole ce week-end, parce que il se trouve que j'ai retrouvé ma voiture complètement détruite par un mec avec un 1,6 g, je peux vous dire qu'il ne roulait pas à 30 km/h. Mais voilà, il faut savoir qu'un enfant de 15 ans à l'arrière d'une voiture, à 30 km/h, il développe, alors c'est l'énergie cinétique, c'est un petit peu technique, je ne vais pas m'attarder, mais il développe une énergie à 30 km/h de 61 kg. À 50 km/h, il développe 172 kilos.
Mais j'entends bien. Mais la difficulté de tous ces sujets, c'est de trouver la bonne mesure.
Non, voilà. Non, c'est la pédagogie. Si on explique les choses...
Alors, sur l'autoroute, vous trouvez qu'on va trop vite ? Alors 130, c'est trop vite ?
Non, 130, mais il n'y a pas beaucoup d'accidents sur autoroute. Des accidents, c'est dû à la fatigue.
Mais il n'y en a pas beaucoup, vous savez, des accidents dans Paris.
Là, je ne vous rejoins pas là-dessus. Là. Bah,
statistiquement, des piétons tués dans Paris...
Il y en a. Là où ça va devenir problématique, c'est avec les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, où là, on va se retrouver avec des véhicules électriques, des trottinettes, des vélos, tout ça va cohabiter. Les gens ne sont pas formés pour conduire des véhicules électriques. Et là, j'en parle en connaissance de cause, puisqu'on le fait avec des véhicules hybrides. Et tout ça ne fait aucun bruit. Et là, ça va cartonner. Et votre auditeur tout à l'heure qui disait on va se faire doubler par les vélos, par tout ça, là, oui, effectivement, c'est problématique. Les vélos sur les trottoirs, c'est problématique. Les trottinettes, les livreurs de pizza qui vous grillent les feux rouges et tout ça, ça, c'est problématique. Donc, je pense que il faut mettre de la pédagogie, mais il faut aussi mettre de la sanction, sinon ça fonctionnera pas. Mais sur Paris, c'est quand même comique. Vous êtes tous là en train de dire, ouais, c'est pas normal à 30, tout ça, et vous êtes tous là à dire en même temps, on roule à 11 km/h maximum. Donc, il n'y a pas de problème sur Paris, je vois pas où il est le problème.
Alors, il y a beaucoup de piétons quand même qui sont tués dans Paris, il faut le dire. Il y en a quasiment un par jour. La mortalité
et à 30
des
km/h,
piétons,
il y en aura moins.
Il y a 391 piétons, ce qui est beaucoup, je pensais pas que c'était autant. 391 piétons ont été tués. Alors ça, c'est un chiffre du 7 juin 2021. Donc c'est un chiffre pour 2020.
C'est énorme.
2020. C'est énorme. 391 piétons tués. Et il y a 178 cyclistes qui sont décédés en 2020 dans Paris.
Et ça va continuer. Parce que comme les cyclistes roulent sur les trottoirs et roulent comme ils veulent et on les autorise à griller des feux et tout ça.
Ça m'étonne quand même, je vais vérifier si c'est pas le chiffre en France plutôt que Paris. Je trouve énorme pour tout vous dire.
Non, c'est possible. Mais moi, nous, sur Cherbourg, depuis que c'est passé à 30, il n'y a plus eu d'accident mortel dans le centre-ville de Cherbourg depuis des années. Alors qu'il y en avait régulièrement. Mais la difficulté de la sécurité routière en France, mais c'est un vaste débat, c'est que avant, quand il y avait un accident mortel, il y avait une enquête qui s'appelait Agir, Réagir, enfin tout ça, qui était chargée de trouver des solutions pour éviter
que ça se repasse. Je vous ai dit bêtises, c'est en France. 391, c'est en France, et c'est pas à Paris.
Oui.
Je suis en train de le vérifier. C'est déjà beaucoup. Bien sûr que c'est beaucoup, mais je trouvais que c'était énorme, et pour cause, puisque c'est à Paris. Voilà. Donc à Paris, 14 victimes. Paris, oui, 14 victimes. Les piétons sont les plus touchés. Viennent ensuite dans Paris. Alors il y a des stats qui sont effectivement peut-être différentes d'une année sur l'autre. Je vous remercie Serge en tout cas. Merci beaucoup. Et nous sommes avec Didier.
Voilà.
Ah, on va voir Olivier, me dit Damien Béchiot. Olivier, bonjour Olivier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ah Olivier à Facebook.
Bien sûr.
Bonjour Olivier.
Bien sûr, bonjour. Vous êtes surpris Olivier. Pascal.
Mais j'étais surpris que vous interveniez à ce moment-là.
D'accord.
Bonjour, tout
merci.
Va bien
bonjour. Oui, et vous?
Fort bien.
Bon, alors, quant à nos réseaux sociaux, Pascal Antoine s'énerve sur notre page Facebook. 30 km/h en ville, c'est juste une aberration, c'est encore plus polluant et même mécaniquement, ce n'est pas bon pour nos véhicules. Pour Eric, ça ne vaut même plus le coup d'avoir une voiture en trottinette. On va plus vite désormais, William nous écrit. Il faut aller encore plus loin, il faudrait carrément les interdire, ainsi que les scooters et les vélos. Pour Anne, cette mesure devenait indispensable au vu des défis écologiques auxquels on fait face. Et enfin, selon Xavier, c'est une mesure ridicule, sauf aux abords des écoles.
La publicité, la pause et nous revenons dans une seconde. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
RTL. En magasin.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Toujours intéressant de voir les statistiques précisément. À Paris en 2020, 45 personnes sont mortes sur les routes de Paris. Vous avez 8 cyclistes qui sont décédés. Vous avez 11 conducteurs de voiture. Vous avez 11 passagers de voiture. Vous avez 11 deux roues motorisées. Là, ce ne sont pas des cyclistes. Et pour terminer, vous avez 15 piétons. Et ça doit faire 45. Nous sommes avec Didier, peut-être. Bonjour
oui.
Didier. Et merci d'être
bonjour
avec
Pascal.
Nous. Merci
bonjour
d'être
Pascal.
Avec nous.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Pascal Pro. Ben oui, Didier, toujours commercial en Saône-et-Loire, à Paray-le-Monial.
Oui.
Donc, j'interviens au sujet de la sécurité routière, de la limitation à 30, à 30 dans la région pour les grandes villes, surtout Paris, je crois, qu'on en a parlé ce matin un petit peu partout. Ben moi, mon avis est simple, hein, c'est du pur racolage électoral. Tout à fait. Parce que le 30 km/h, il existe. Dans mes petites villes, on a déjà le 30 km/h autour des écoles, des centres commerciaux. Donc, mais à Paris, 30 km/h, je veux bien que ça limite le bruit, ça limite les accidents, c'est normal. Ça, 45 morts, comme vous aviez dit, Pascal, c'est déjà trop. Hein. Mais c'est du pur racolage électoral. Madame Hidalgo veut se réélire et elle racole du côté des écolos et des rois de la mobilette et du vélo. Voilà ce que j'en pense.
Bah, j'entends bien. Mais alors, quelle solution vous imaginez? Quelle décision vous préféreriez?
Eh ben, la meilleure solution, bah, c'est d'interdire carrément la circulation dans les grandes villes, et puis on gagnera du temps. On est pas à 80 sur les.
Effectivement, ah ben non, mais c'est... on va y arriver. Là, c'est radical.
Non, mais écoutez, on va y arriver parce que moi j'ai 60 ans bientôt. On roulait à 110, maintenant après à 90, après à 80. En ville, on était à 70, on est passé à 50, on passe à 30. Dans 5 ans, on sera à 20 à l'heure, à 10 à l'heure.
Donc, bah oui, mais c'est une tendance lourde, effectivement, de baisser la vitesse de circulation.
Non, mais tout à fait, je comprends. Après, les victimes, c'est terrible. Moins il y a de victimes, mieux ça vaut, et c'est important. Et puis, autre chose, c'est pareil, mécaniquement, nos voitures ne sont pas adaptées encore. Moi, j'ai une automatique, elle ne peine pas, mais quelqu'un qui a une boîte à vitesse manuelle, eh ben, entre 20 et 30, à 30 km/h, vous êtes entre la seconde et la troisième. Donc, votre moteur peine, vous êtes toujours, votre boîte à vitesse peine. Donc, bienvenue les garages encore. Hein.
Ben merci Didier, merci voilà, Didier. Je crois que Véronique est là et Véronique habite Le Mans. Elle a peut-être une solution encore plus radicale. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal. Non, pas radicale, mais moi j'ai vu un reportage sur une ville effectivement dans le nord-ouest d'Espagne, la Pontevedra, où ils sont passés effectivement sur très peu de véhicules et une baisse de la vitesse à 20 km/h. Donc au début c'était un tollé général, tout le monde râlait, mais aujourd'hui personne ne reviendra en arrière. Parce que les artisans qui interviennent ont de la place pour se garer. Les résidents, bah, effectivement, peuvent circuler, mais ils circulent doucement. Il y a des transports en commun qui ont été mis. Vous avez des parkings qui sont à moins d'une demi-heure, effectivement, à pied. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et ce qu'il faut, c'est penser autrement. On dit toujours, oui, mais notre société, on va trop vite, etc. Et dès qu'on dit, on va baisser la vitesse, ah, tout le monde crie. À un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Moi, je suis allée dans Paris la semaine dernière, 3 jours. J'ai redécouvert Paris. Quasiment plus de voitures, pas de touristes.
Oui, c'était particulier quand même. Vous êtes arrivé le 20 août, Véronique.
Mais c'est super agréable.
Ah ben, je suis d'accord. Paris sans les Parisiens, je vous confirme, c'est très agréable.
Non, parce qu'il y avait quand même des Parisiens, mais Paris.
Non, mais c'était les vacances. Véronique, c'est très particulier. Moi, je suis d'accord avec vous. Tout le monde adore Paris au 15 août.
Si on retire la grande partie des voitures qui ne fait que traverser Paris ou qui rentre et qui ressort avec une personne dans la voiture, par contre, en contrepartie, il faut développer les transports en commun, les mettre gratuits, mettre des parkings à proximité.
Oui, mais c'est pas le cas, je vous assure.
Il
y a beaucoup de gens qui prennent une voiture parce que le métro n'arrive pas à moins de 500 mètres du lieu de travail dans lequel sont.
Il faut développer, je suis d'accord avec vous.
Même si c'est très maillé, qu'il y a beaucoup de quartiers où vous n'avez pas de bus, vous n'avez pas de métro.
Ça va pas.
Et tout le monde n'a pas envie d'être en trottinette.
Oui, ça va pas se faire tout de suite.
Vélo.
Mais si on commence pas à faire un effort, oui, effectivement, au début, ça va gêner. Mais je vous assure, cette ville, moi, j'ai vu le reportage, que ce soit les commerçants s'y retrouvent, parce que les gens, maintenant, se baladent dans la ville. Il y a quasiment plus de voitures où elles roulent à 20 à l'heure. Donc, les gens se promènent avec les poussettes, les enfants. Il n'y a pas de risque. Donc, les commerçants refonctionnent. Ils ont supprimé les centres commerciaux.
Oui, mais il y a des gens qui buzzent, Véronique. Il y a des gens... Moi, j'entends bien, vous étiez là pour visiter la ville. Il y a aussi des gens qui bossent.
Mais oui, mais les plombiers, les plaquistes, les peintres qui bossent et qui peuvent pas se garer, ils seront contents, eux, quand il y aura moins de voitures. Parce qu'ils diront, on peut enfin travailler correctement. Moi, je connais des plombiers qui me disent, on va plus dans Paris. C'est plus possible. Parce qu'on a autant de PV que de chiffre d'affaires. Donc, c'est fini, terminé. Donc, ça aussi, il faut y penser. Donc, oui, il y a des gens qui travaillent, mais on n'est pas obligé de travailler tous dans Paris. Et puis, à un moment donné, oui, effectivement, il faut redévelopper, comme je disais, de plus en plus, les transports en commun, les mettre gratuits.
Oui, mais quand vous avez des enfants, que vous êtes une mère de famille, vous avez 30 ans, vous avez 2 ou 3 petits-enfants, vous rentrez dans les poussettes, dans le métro ou dans le bus, que vous les déposez à l'école, je vous assure, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Chaque cas est particulier. Bien. Mais... Quand vous êtes tout seul, célibataire, et que vous pouvez prendre effectivement ou le taxi ou le bus, tout va bien. Mais dès que vous commencez à travailler, avoir beaucoup de rendez-vous dans une journée, devoir déposer les enfants à l'école, les emmener après au sport, pourquoi pas, et terminer dans un lieu culturel, c'est pas simple quand vous êtes une mère de famille avec des enfants de 7, 8 ou 12 ans. C'est pas simple.
Mais... Moi, j'étais dans Paris, j'ai fait mes études dans Paris, j'ai commencé à travailler dans Paris. Quand je me suis mariée, que j'ai eu des enfants, je suis partie. Parce que savais que ce serait difficile.
Bah oui, d'accord, j'ai quitté Paris. Bon, bah,
ok. Alors j'ai baissé mon salaire, je ne regrette pas, parce que j'ai eu une autre qualité de vie, où mes enfants prenaient le bus.
Véronique, on est tous d'accord qu'on est tous à Paris, bien souvent parce qu'on y travaille. Autrement, je viendrai comme vous le 15 août, moi, pour visiter la ville. Mais on peut demander qu'RTL soit délocalisé à Noirmoutier, hein, ça ne me dérange pas, ou à La Baule. Hein, moi, je veux bien y aller.
Dans le sud,
Moi, il n'y a pas de problème, on y va tous, ou à Ajaccio. Ouais. Hein, on peut tous faire l'antenne à Ajaccio, ça sera très sympa.
Et pourquoi tout est... Vous savez, moi, j'ai eu pas mal d'enfants, tous, effectivement, au début, les jobs, c'était Paris. Pourquoi est-ce que systématiquement, quand les gens sont diplômés, c'est Paris? Parce que tout est centralisé sur
Mais
Paris.
Mais parce que...
Oui,
parce que les débouchés sont plus importants. Voilà,
oui, parce que toutes les entreprises sont sur Paris.
Pas toutes, mais beaucoup. Mais là, vous avez raison, ça, c'est une bonne réflexion. Quand vous dites que vous avez eu pas mal d'enfants, vous avez combien d'enfants?
J'en ai 4, mais j'en ai élevé 6.
6?
6 garçons. J'ai élevé 6 garçons, oui.
6 garçons?
Oui.
Non, ça ne devait pas rigoler à la maison.
Ah, c'était un peu militaire, mais bon, ils s'en plaignent pas aujourd'hui parce qu'ils me disent si on est là, c'est justement parce que t'étais rigoureuse et assez sévère et on est là où on est pour ça. Voilà.
Un peu de rigueur. Merci et Véronique. Oui. Merci. On va marquer une pause. Et si on pouvait ne plus entendre Joe Dassin à Paris à vélo, si je pouvais, il y a des chansons comme ça, on pourrait peut-être, où on met 10 euros dans le Nourin à chaque fois.
Laurent Tessier n'a pas l'air d'accord, Pascal.
Non, mais parce qu'il y a des chansons, on les a, c'est comme.
Attention.
La chanson, vous savez, lorsqu'on est champion du monde, comment ça s'appelle?
I Will Survive.
Non, c'est pas I Will Survive, c'est l'autre chanson.
Ramener la coupe à la maison.
Non! La vieillesse est un naufrage. Mais non, We Are the Champions. Voilà, de Queen.
Vous chantez bien, Pascal.
Non. La pause. Et alors, on va peut-être changer de sujet. Non, ça vient encore, les 30 km/h. Mais on pourra parler, si vous voulez, du pass sanitaire. J'appelle que le pass sanitaire, il est obligatoire aujourd'hui. Et un pass sanitaire en vaccination, ça veut dire que vous vous êtes fait vacciner il y a un mois. Parce qu'entre le moment où vous vous faites vacciner et où le pass est validé, il se passe 30 jours. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, ça fait réagir, hein, les 30 km/h, évidemment.
Et vous allez continuer de nous en parler dans quelques instants au 3210. Vos messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Mais aussi, vous pouvez nous appeler pour parler du pass sanitaire.
Depuis ce matin, ce sont donc près de 2 millions de Français, 1 800 000 précisément, qui ne peuvent plus travailler sans. Ça y est, le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés partout où il l'est déjà pour les clients. Ça vaut au cinéma, dans les musées, les trains grandes lignes ou encore au restaurant.
Mais ce pass sanitaire sera-t-il respecté? Vous êtes patron, quelle est l'ambiance chez vous? Exemple, dans une brasserie à Paris avec un salarié et son directeur.
J'ai eu 2-3 personnes qui avaient une position un petit peu plus radicale, mais avec le sens de responsabilité, on a réussi à convaincre tout le monde.
Je ne suis pas convaincu de l'efficacité du vaccin. Là, c'était ça ou pas de ressources? Le choix est facile à faire, en fait.
Le porte-parole du gouvernement a promis hier sur RTL une semaine de souplesse, de pédagogie, de rodage, de tolérance. Mais Gabriel Attal a prévenu, il y aura évidemment des sanctions ensuite. Et bien, nous attendons vos témoignages, vos avis dès maintenant au 3210 3210.
Nous sommes avec Michel. Tout à l'heure, nous avions déjà un moniteur d'auto-école. Michel est également moniteur d'auto-école. Il habite les Yvelines. Bonjour.
Bonjour Pascal, merci de me prendre à l'antenne.
Je vous en prie, votre sentiment, votre avis?
Ben je rejoins un petit peu Serge, hein, mon collègue. Il faut faire, c'est vrai, de la pédagogie. J'ajouterais qu'il faut avoir une bonne attitude avec la sécurité routière. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir adapter son allure aux situations. Peut-être que rue de Rivoli, 30, c'est pas assez.
Ah ben, il n'y a plus de voiture rue de Rivoli, donc il n'y en a plus maintenant. Donc ils ont résolu le problème. Il n'y a que des cyclistes.
Adapter son allure. Moi, dans notre ville, nous sommes à 30 km/h presque partout. J'ai les statistiques en tant qu'adjoint à la sécurité. 99% des conducteurs ne dépassent pas la vitesse maximum, vous voyez, entre 30 et 40. Par contre, 82 fois, il y a eu une vitesse entre 51 et 70 et un maximum de 65 km/h. Donc, il faut avoir une bonne attitude sur la route. Vous dites aux Français, nous roulons à 80, ça sera 90. Nous, on se fait dépasser en permanence, alors qu'on est à la bonne allure tout le temps. Nous sommes à 83 avec nos élèves sur les nationales.
Et vous trouvez que les gens... Mais alors là, je vois, je vais dire votre âge, vous avez 64 ans.
60, moi, 65 ans, oui.
Voilà, ouais, moi j'ai le sentiment quand même que les Français ont levé le pied sur l'accélérateur. Et j'ai le sentiment notamment sur l'autoroute, il y a 20 ou 25 ans, souvent je l'ai dit à ce micro, tu étais doublé par des fous furieux qui passaient à 180... Bon, tout ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens sont très raisonnables et ne roulent pas très vite ou ne roulent pas trop vite.
Moi je n'aime pas, devant un radar, je vois les stops qui s'allument. J'habite dans les Yvelines, Rambouillet, il y a un radar dès qu'on arrive. Vous voyez là, eh ben, il y a marqué le panneau danger, radar. Est-ce que le radar est en danger? Sûrement pas. Sûrement pas. Moi, j'ai une pensée pour les 45 personnes qui sont mortes. Vous voyez, les 15 piétons dans Paris, vous avez dit que c'est...
Oui,
c'est
je répète parce que c'est très intéressant. Oui. 45 personnes sont tuées en 2020 dans les rues, dans les routes de Paris. Vous avez 11 conducteurs et passagers. Ben 11. Oui. Vous avez 11 motards. Vous avez 15 piétons et vous avez 8 cyclistes.
Mais bien sûr, sachez...
Et sachez tout ça fait 45.
Le temps de réaction à 50 km/h, Serge ne me contradira pas, le temps de réaction, le temps que vous mettiez votre pied droit sur le frein, c'est 13,88 m. En fin de compte, c'est 15 mètres. Vous voyez, 15 mètres où il ne se passe rien. Donc oui à la pédagogie, oui à la pédagogie. Enfin, pour les adultes, on dit l'andragogie, c'est pareil.
Comment mais, vous avez dit
c'est l'andragogie, de mémoire.
L'andragogie.
L'andragogie.
Alors ça, cette émission est formidable parce qu'on apprend des mots.
Mais la pédagogie, c'est plus pour les enfants, pour les adolescents, pour les... Vous voyez, nous, les adultes, on parle plutôt d'andragogie. C'est comme ça, c'est la formation des adultes. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de français.
L'andragogie est la formation pour adultes. Elle se définit par le public concerné, mais aussi par opposition à la formation initiale. Elle se confond alors avec la formation continue, appelée aussi la formation permanente ou la formation tout au long de la vie ou de la formation continuée.
Bah écoutez, c'est
formidable, l'andragogie. Bravo.
Voilà, donc effectivement, sur la route, nous, enfin, c'est l'attitude. Il ne faut pas que les Français freinent devant les radars. Il faut, alors, bien sûr, les radars, c'est une chose, mais le régulateur sur une voiture ne fonctionne pas à 30 km/h. Ça, il faut le préciser. Monsieur Bourou, bien sûr, moi j'ai une...
Vous êtes sûr de ça?
Ah ben sûr, j'ai une voiture avec un lion sur la calandre, qui est une belle voiture, qui est de 2018. Et ben le radar ne fonctionne qu'à partir de, je ne sais plus, 48 ou 50 km/h.
Le délimitateur ou le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse, plus exactement.
Le régulateur.
Ben merci Michel. Philippe est là aussi. Philippe qui habite Cognac. Il doit faire beau aujourd'hui à Cognac.
Bonjour. Oui, il fait un peu gris, mais ça va.
Il y avait du soleil tout le week-end en Charente.
Il
a fait un temps magnifique. Il a fait très beau.
Pour les vignes.
Vous savez que je vais vous raconter une petite histoire. J'ai pris le train pour Angoulême ce week-end. Et quand je suis arrivé à Angoulême, c'est la première fois que j'entends ça, dans le train, il y a eu une annonce par le conducteur, sans doute, qui a dit « La planète vous remercie d'avoir pris le train. » La planète vous remercie d'avoir pris le train. Donc j'étais très content parce que la planète m'avait remercié. Et il expliquait que le train est moins nocif en CO2 qu'en voiture. Et c'est la première fois que j'entends ça dans un train. Donc j'étais très content parce que je suis sorti avec quelqu'un qui m'attendait et j'ai dit ah ben, la planète m'a remercié. Donc voilà. C'est étonnant, non, Philippe?
Je suis pas étonné parce qu'on transporte beaucoup plus de monde dans un train que dans une auto.
Oui, mais je suis étonné, moi, que la planète me remercie par l'intermédiaire du conducteur de la SNCF. C'est ça qui m'a le plus étonné. Bon, que voulez-vous nous dire sur les 30 km/h?
Les 30 km/h à Paris, moi, je pense que le sujet, il est surtout sur la pléthore de voitures, de bus, de camions et autres. Et pour avoir beaucoup circulé dans Paris et vécu à Paris, j'ai essayé d'utiliser un peu les transports en commun qui n'étaient pas forcément très à l'heure et très ponctuels. Alors, si on retire les voitures de Paris et qu'on propose, au sens des transports en commun gratuits aux utilisateurs, ils peuvent laisser leur voiture au parking, ils auront des bus qui seront à l'heure, des métros qui tourneront, et on pourra peut-être arriver à limiter, un, la pollution, ça c'est important, la pollution sonore aussi, mais surtout, tous les à côté, les accidents, les incidents qui coûtent des fortunes, en plus, parce que je me suis plongé un peu dans les stats avant de vous avoir au téléphone. Les accidents à Paris, vous le disiez tout à l'heure, il y a 45 morts. Il faut savoir que les accidents de la route en France, apparemment, ça représente environ 2% du PIB de la France. Alors si on réduisait déjà dans les grandes villes, en réduisant la circulation routière, on ferait de l'écologie, on ferait de l'économie. Je pense que les gens seraient un peu plus calmes pour aller bosser. Et on ferait aussi beaucoup plus de sécurité pour les piétons, pour les vélos, pour l'ensemble des utilisateurs. Et je pense que ça serait pas forcément une mauvaise solution. Je peux comprendre que quelqu'un qui habite à Melun et qui bosse à la Défense tous les jours, qui va d'est en ouest, c'est pas facile. Mais s'il avait des transports en commun plus réguliers, partiellement ou totalement gratuits, je pense qu'il serait plus enclin de prendre les transports en commun pour être plus tranquille, de faire la queue sur l'autoroute ou sur la route, de façon à aller en toute sécurité travailler et rentrer chez lui tranquillement.
Ben merci Philippe pour ce témoignage. On revient dans deux secondes, on va peut-être changer de sujet parce que ça fait un moment qu'on parle de cela et on pourrait parler du pass sanitaire qui est obligatoire aujourd'hui pour les métiers en contact avec le public.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL+. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous sommes avec Laurent Tessier.
Et vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets. L'abstention est un piège à con. Ce sont les mots hier de Jean-Luc Mélenchon.
Plus ça vote, plus nous sommes forts. Moins ça vote, plus Macron et Le Pen sont forts. C'est cette loi-là. L'abstention. Vote Macron. L'abstention, décidément, est un piège à con.
Alors, vous vous êtes abstenu aux dernières élections. Qu'avez-vous envie de répondre au leader de la France Insoumise? 32-10. Vous pouvez réagir aussi aux premières minutes de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain hier soir.
Bon, Messi est sur la pelouse en Ligue 1.
Voilà, c'est les grands débuts effectivement de Lionel Messi en Ligue 1 sous un autre maillot que le Barça après 778 matchs avec Barcelone et 672 buts sous le maillot catalan.
L'Argentin aussi ballon d'or, le PSG s'est imposé 2-0 à Reims avec un doublé de Kylian Mbappé titulaire malgré ses envies de départ.
Faut-il permettre aux propriétaires de résidences secondaires de pouvoir voter deux fois aux municipales sur leur lieu de vie? Et c'est une proposition qui a une forme évidemment de cohérence d'ailleurs, qui est proposée par Éric Woerth, qui est député des Républicains. Il y a une forme de logique là-dedans. On peut même s'étonner que personne ne l'ait proposé avant, mais elle suscite beaucoup de commentaires. Bonjour Monsieur Woerth.
Oui, bonjour Pascal Praud.
Et merci d'être avec nous. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et pourquoi cette mesure?
Moi, je lance cette mesure dans le débat. C'est ça qui est important. On est à un temps de débat. Moi, vous savez, la fiscalité locale, elle est en train d'évoluer considérablement puisque la taxe d'habitation est supprimée pour tous les Français à partir de 2023.
Tous les Français, je suis pas sûr.
Si tous les Français à partir de 2023. Pour l'instant, encore. Quel que soit le revenu, oui. Et donc, ça change un peu la donne. Ça veut dire que les Français ne paieront pas de taxe d'habitation. Et j'imagine que. Enfin, c'est un autre sujet, mais j'imagine qu'ils en seront ravis. Mais en même temps, les résidents secondaires vont continuer à la payer. Donc, ça veut dire que vous habitez, vous avez une maison ou un appartement secondaire. Parfois, c'est très modeste, hein. 30 ou 35% des résidents secondaires sont des personnes aisées et le reste pas. Et vous allez finalement payer une taxe d'habitation sans voter, ce qui est assez anormal. À partir du moment où on est consommateur de services publics, mais surtout financeur de services publics, il est naturel de se poser la question de savoir si on n'a pas le droit de voter. Alors aujourd'hui, on peut choisir. Aujourd'hui, un résident secondaire, il peut voter, mais il doit choisir entre sa résidence secondaire, il faut simplement qu'il paye des impôts depuis plus de 5 ans, et sa résidence principale. Bon, on peut dire que ce n'est pas bien de voter deux fois. S'il votait dans les deux lieux de vie, on peut aussi se demander si, pourquoi, au fond, à partir du moment où on finance les services publics, on n'a pas le droit au chapitre au moment du débat municipal. Donc c'est une question, je pense...
Pas très polémique pour le coup, a priori. Il peut exister un consensus sur cette mesure parce qu'elle n'est pas forcément très polémique.
Elle est assez polémique parce que je vois notamment sur les réseaux sociaux beaucoup de gens se développer en disant c'est la renaissance du suffrage censitaire, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est au fond de permettre aux riches, puisque les propriétaires de résidences secondaires pour un certain nombre de gens sont nécessairement que des riches. Je rappelle quand même que à peu près 30% des résidences secondaires font moins de 40 mètres carrés.
Donc il y a une opposition parfois sur les lieux de villégiature entre ceux qui résident toute l'année et ceux qui viennent deux mois en vacances.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, moi, J'ai indiqué que je considérais qu'il était probablement opportun d'en discuter. Je pense qu'un débat, il doit toujours être serein, qu'on ne doit pas caricaturer une chose, qu'on doit essayer après de trancher au mieux. Je pense qu'il est assez juste quand même de considérer qu'à partir du moment où les résidences secondaires sont les seules à payer la taxe d'habitation, et s'ils sont propriétaires, ils paieront évidemment la taxe foncière, c'est assez logique de donner une opinion au moment où se cristallise la politique locale, c'est-à-dire au moment de l'élection municipale.
Bah écoutez, affaire à suivre en tout cas.
Je comprends bien que dans un certain nombre de villes ou de villages, c'est souvent dans des villages ruraux, je comprends bien qu'il y a parfois des résidences secondaires et que les personnes qui y habitent à l'année n'ont pas envie que les résidences secondaires participent au choix d'une politique municipale. Ça peut être une idée, je vois quelques réactions, notamment en Corse par exemple, mais je trouve aussi que qui paye peut à un moment donné participer à une élection. Vous pouvez voter une fois dans votre résidence principale et une fois dans votre lieu de vie secondaire. D'ailleurs, le Covid a montré qu'il y avait beaucoup de gens qui de plus en plus utilisaient leur résidence secondaire beaucoup plus.
Eh bien, c'est entendu, Éric Werth, et je rappelle que vous êtes député LR, vous êtes toujours chez Les Républicains.
Je suis toujours chez les Républicains.
Oui, parce que parfois, quand on s'adresse à quelqu'un de votre famille, on ne sait pas s'il est déjà parti, s'il va partir, s'il est en partance ou pas. Mais en tout cas, vous êtes toujours chez les Républicains. Vous êtes pour ou contre la primaire ?
Non, j'habite toujours dans ma résidence principale.
Vous êtes pour ou contre la primaire ?
Moi, j'aurais préféré qu'on puisse éviter une primaire. Maintenant, à partir du moment où il y a beaucoup de candidats, c'est sans doute...
Bon, vous ne vous présentez pas. Vous ne vous présentez pas. Vous avez été ministre...
S'éclaircissent sans nécessité de primaire.
Bon, et vous êtes président aujourd'hui de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous m'avez appris quand même quelque chose parce que je pensais que pour la taxe d'habitation, c'était lié à un certain niveau de revenus et que les plus aisés continueraient à payer. Donc ça, c'est quand même une information que vous avez donnée que je trouve intéressante.
Et donc, les personnes les plus aisées payent encore. Seront payés à partir de
2023. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et généralement, la taxe d'habitation en résidence secondaire est plus importante que la taxe d'habitation en résidence principale. Il est 13h49. On va continuer ce débat. Donnons peut-être ce débat, mais on va aussi continuer avec le pass sanitaire. Et puis, peut-être qu'on aura encore un témoignage sur les 30 km/h. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'instauration du pass sanitaire franchit une nouvelle étape ce lundi. Il devient obligatoire au travail pour les salariés en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées ou encore les trains grandes lignes, là où il était déjà requis pour les clients. Cette mesure doit concerner à peu près 2 millions de salariés. Nous sommes avec Jean-Pierre qui est restaurateur. Bonjour Jean-Pierre, vous habitez Saint-Raphaël.
Oui, bonjour Monsieur Pro, comment allez-vous ?
Bah, c'est bien, mais vous êtes en plein service, là, il est 13h52.
Ah oui, presque, j'ai presque fini.
À 13h52, c'est déjà fini ?
Oui, bah oui, le lundi, voilà, c'est comme ça. Bah, et vous savez, je suis comme les femmes, j'arrive à faire deux choses à la fois.
Bah écoutez, je vous en félicite, mais là, c'est encore les vacances à Saint-Raphaël, vous avez encore des vacanciers.
Oui, mais vous savez, là, c'est la période intermédiaire, je pense que les touristes du mois de septembre vont arriver la semaine prochaine.
Bon, vous avez fait combien de couverts ce midi ?
10.
C'est pas beaucoup. C'est le chiffre habituel ou c'est...
Non, mais c'est le début de semaine. Hein, donc voilà.
Et vous pouvez en faire jusqu'à combien ?
28.
Bon, et vous avez combien de personnes avec vous ?
4.
Bon, les 4 étaient déjà vaccinés avant aujourd'hui ?
Oui. Ouais. Non, la semaine dernière, ça s'est fait.
Ben oui, mais alors c'est ça qui est étonnant. Si elle a été vaccinée la semaine dernière, son pass sanitaire n'est pas validé aujourd'hui.
Non.
Donc comment elle fait cette personne ?
Eh ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
Ben, je vous pose la question. Elle travaille quand même ?
J'en sais rien. Ben oui, on n'a pas le choix.
Ah ouais, donc elle travaille dans l'illégalité, c'est ce que vous me dites.
Après, on a pris les disponibilités qu'il y avait, Monsieur Pro.
C'est-à-dire ?
Voilà. Eh ben, quand vous téléphonez pour avoir les deux doses, voilà, et on a eu la première dose début du mois d'août.
Non, mais elle peut faire un test. Elle peut faire un test.
Oui.
Le pass sanitaire, on peut l'obtenir de plusieurs manières. On peut l'obtenir par la vaccination, mais on peut l'obtenir également par un test de moins de 72 heures.
De moins de 72 heures, ouais. Seulement, on ne va pas faire un test de moins de 72 heures tous les...
Tous les 3 jours, si. C'est la loi, si. Ça s'appelle.
Oui, je sais.
Pardonne-moi, j'aime pas être dans ce rôle-là, mais c'est juste la loi.
Au bout d'un moment, voilà.
Oui, mais si vous êtes contrôlé, faites attention à vous, parce que là, ça peut vous coûter cher, et puis à elle aussi.
Je sais, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
D'abord, la personne aurait pu s'y prendre, parce qu'on le sait depuis un moment que le pass sanitaire va passer aujourd'hui. Je rappelle que si vous faites une dose, c'est 28 jours après l'injection pour les vaccins Johnson & Johnson. Nous sommes d'accord. Ouais. Et c'est là que c'est validé, hein, c'est ce que je veux dire. Et pour Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, c'est 7 jours après la deuxième injection. Pour les vaccins à double injection. 7 jours après la deuxième injection. Ouais. Mais entre la première et la deuxième injection, généralement, on met 3 semaines ou un mois. Gens qui voulaient un pass sanitaire validé aujourd'hui, il eût fallu qu'ils se vaccinent entre le 25 juillet et le 31 juillet.
Voilà. Sauf que, vu ce qu'on a subi, croyez-moi que là, on a mis un peu la tête dans le guidon, comme tous les ans. Voilà. Et on a bien profité de la saison. Je dirais pas pour rattraper, parce que ça sera irrattrapable tout ce qu'on a perdu, mais pour essayer de faire une bonne saison et de se refaire en trésorerie.
Il faut 5 minutes pour se faire vacciner.
Il faut cinq minutes. Sauf que quand vous faites 18 heures par jour, au bout d'un moment, les 5 minutes...
Les 4 personnes chez vous font pas 18 heures par jour.
Non, moi je l'ai fait.
La personne qui n'a pas son passe sanitaire, il y a une part, elle ne voulait pas, vous le savez bien. Elle ne voulait pas, elle était réticente, elle reculait le moment. Ce que je peux comprendre, là encore.
Exactement,
mais...
en plus ils sont jeunes.
Mais oui, voilà, je sais bien.
Ils ont moins de 25 ans.
Restez avec nous, Michel, parce qu'il faut que nous partions avec Olivier, qui est à la page Facebook de l'émission.
Exactement, Pascal.
Eh oui.
Pour Jean-Claude, ce pass sanitaire obligatoire est une honte. En l'imposant au travail, on ne laisse même plus les Français choisir librement de se faire vacciner ou non. Amaury nous dit « Je travaille dans un cinéma et cette mesure me donne envie de démissionner ». Elisabeth écrit « Je suis dans la restauration et ce pass obligatoire me rassure beaucoup. Il était devenu essentiel. Je vais désormais venir au travail plus sereinement ». Et pour conclure, Thierry nous dit « La dictature ne fait que commencer ».
Oui, la dictature. On peut avoir des réticences sur le pass sanitaire, mais le mot « dictature » n'est pas adapté quand on voit ce qui se passe. L'actualité nous donne des images suffisamment fortes ces dernières heures pour prendre un peu de distance sur ce mot « dictature ». Monsieur Richard, prénom
Jean-Alphonse. Monsieur Pro, bonjour.
14h30, l'heure du crime. C'était la première semaine de rentrée la semaine passée. C'était formidable d'ailleurs.
Ah ben c'est gentil, écoutez.
Vraiment, on est passionné par
ces histoires. On essaie de faire de la haute couture dans cette émission, de la haute couture criminelle. Et ce soir, cet après-midi, je vous propose l'un des plus grands mystères criminels français. C'est rare qu'on en ait un à ce point-là. Que vous connaissez par cœur, Pascal, évidemment, c'est l'affaire Godard, le docteur Godard.
Incroyable.
Alors, c'est une histoire totalement incroyable qui s'est déroulée donc en 99, je le rappelle très brièvement, toute une famille qui disparaît, qui s'évapore, on va trouver des traces de sang partout, et puis un bateau qui va disparaître, le voilier le nique. Et il faut bien savoir que 22 ans après, malgré des enquêtes invraisemblables, des vérifications dans le monde entier, le mystère est toujours là. On sait toujours.
Il n'y a pas d'hypothèse.
Il y a des hypothèses, c'est pas ce qui manque, mais il n'y a pas de certitude.
Il n'y en a pas qui sont privilégiés.
La justice penche plutôt sur ce qu'elle appelle un suicide altruiste, c'est-à-dire un homme qui aurait emporté dans sa folie et dans sa perte toute une famille après avoir tué sa femme, peut-être suite à un désaccord familial.
Il y a des passerelles d'ailleurs avec Dupont de Ligonnès de ce point de vue.
Voilà, sauf que là je mets un bémol tout de suite, c'est que on a retrouvé le docteur Godard, on a retrouvé son fémur au fond de l'eau. Donc là il n'y a pas de doute, il est certainement mort dans le naufrage de ce voilier, le Nick. Mais le fait est que lui seul avait la vérité, et cette vérité, les enquêteurs ne sont pas parvenus à la trouver. Enquête qui n'est pas terminée, hein. Elle peut toujours rebondir. Un élément nouveau pourrait la relancer. Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'un témoin sait quelque chose? Pourquoi pas?
On est déjà dans l'heure du crime. Quand j'entends la voix de Jean-Alphonse, je suis déjà dans l'heure du crime. Mais pour le moment, ça va être le flash de 14h. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Il est 14h01. Le flash avec Agnès Bonfillon.
À part dans les centres commerciaux, la mise en place du pass sanitaire début août n'a pas eu d'impact sur l'activité économique du pays. C'est ce qu'affirme Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie se base sur l'augmentation des dépenses en carte bleue dès la première semaine dans les bars et les restaurants. Hausse de 5%, puis de 8% la semaine suivante. Autre annonce, le fonds de solidarité prendra fin le 30 septembre, sauf pour l'outre-mer. Ensuite, ce sera du sur-mesure. Depuis ce matin, les différents secteurs très impactés par la crise sanitaire sont reçus à Bercy. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la stagnation de la vaccination en Europe. L'OMS estime que près de 236 000 morts supplémentaires pourraient être dues au Covid et pourraient survenir surtout d'ici au 1er décembre. C'était l'une des promesses du Grenelle contre les violences conjugales il y a 2 ans. La ligne d'écoute pour les victimes, le 3919, est désormais joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça n'était pas le cas jusqu'ici. La météo, ce sera encore très nuageux dans la moitié nord demain matin. Au fil des heures, les éclaircies reprendront le dessus. Dans le sud, toujours beaucoup de soleil. Les températures à peu près de saison. Enfin, le matin, ça ira de 11 à 15 degrés, localement 15 à 19 près de la Méditerranée. L'après-midi, de 21 à 24 degrés dans la moitié nord et de 25 à 30 dans la moitié sud. Les courses, résultats du prix de Mortain. Il fallait jouer le 10, le 13, le 12, le 11 et le 7. 10, 13, 12, 11 et 7. La suite des auditeurs ont la parole puisqu'il est 14h03, Pascal Pro.
Merci Agnès, et à 15h, on vous écoutera de nouveau, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, Mbappé est toujours à Paris.
Toujours.
Donc peut-être...
peut-être. Dès que je sais, je vous dis.
Bien sûr, le 31 août, c'est la fin du Mercato, donc c'est peut-être vous qui l'annoncerez dans une dépêche avant demain. Vous êtes
qui
là encore demain?
Ah bah oui.
Eh bien, à demain.
À demain.
Et 14h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On termine avec Michel, qui est donc chef d'entreprise. Ah non, Jean-Pierre, il est parti. Jean-Pierre, il a quitté Saint-Raphaël. Il nous disait tout à l'heure qu'un de ses employés n'était pas vacciné. En tout cas, n'avait pas le pass sanitaire. Il s'était fait vacciner il y a 8 jours et qu'il continuait de travailler dans l'illégalité. Bon, Michel est là. Bonjour, Michel. Vous êtes chef d'entreprise, oui, à Toulouse.
Oui, bonjour Pascal.
Bon, entreprise de restauration également ?
Je suis dans le bâtiment, donc tous travaux dans le bâtiment, et nous accueillons du public et mes salariés partent en clientèle et sur des chantiers extérieurs.
Mais vous entrez dans le cadre des salariés qui sont en contact avec le public ?
Tout à fait, oui.
Donc le pass sanitaire, a priori, est exigé ?
En théorie.
En théorie. Bon, pourquoi vous dites en théorie ?
Ben parce que je ne l'exige pas et je ne demande pas à mes salariés ni le pass sanitaire, ni ceux qui sont vaccinés ou pas. Alors je sais ceux qui sont vaccinés. J'ai 12 salariés, il y en a 10, 9 qui sont vaccinés et 3 qui ne le sont pas. Je reçois du public et je considère que ça suffit. C'est-à-dire que moi, avant, je n'étais pas pour la vaccination. Je me suis fait vacciner parce que j'ai considéré qu'il y avait plus d'arguments positifs à se faire vacciner que d'autres. Et je considère qu'on doit maintenant arriver à une responsabilisation des Français. C'est-à-dire qu'on a le droit de se faire vacciner pour les raisons qui sont moult fois évoquées. Et on a le droit de ne pas se faire vacciner parce qu'on ne le veut pas. Et on a le droit, quand on ne se fait pas vacciner, de savoir qu'on risque d'être malade et on risque éventuellement de mourir si le Covid attaque. Simplement, aujourd'hui, on nous avait dit à une époque « faites-vous vacciner ». Avec ça, vous pourrez vivre tranquillement et peinard. C'est pas le cas, puisque, un, il faut le pass. Mais quand on a le pass, il faut aussi le masque, puisqu'on dit, attention, même si vous êtes vacciné, vous risquez de transmettre le virus. C'est-à-dire que l'on nous culpabilise, en étant vacciné, de risquer de donner le virus à des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, à un moment, il faut arrêter, parce que ça peut durer des années. Donc, à un moment, il faut responsabiliser les Français et dire, eh voilà, ceux qui sont vaccinés, ils l'ont fait en connaissance de cause. Ceux qui ne se sont pas fait vacciner, ils le font en connaissance de cause. Mais on ne peut pas reprocher aux uns et aux autres éternellement d'être vaccinés et de risquer de transmettre et de ne pas vouloir se faire vacciner et risquer de l'acquérir. Donc, moi, j'ai dit à mon entreprise, vous faites ce que vous voulez, on vit en liberté, c'est un domaine privé, même si on reçoit du public. C'est un domaine privé. On n'a pas le masque, on n'a pas de passe. Vous savez ce qui vous arrive si de vous arriver quelque chose. Et puis, terminé. Il y a un moment, parce que sur ce fonctionnement-là, dans 20 ans, il y aura toujours un seul ou deux ou trois qui ne seront pas vaccinés et pour lequel l'ensemble des Français devraient porter le masque pour les protéger. Alors, ce n'est pas une guerre entre pro-vaccinés et non-vaccinés. C'est simplement un espace de liberté. Moi, je respecte ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur droit. Je respecte ceux qui se sont fait vacciner comme moi.
Mais c'est pas leur droit, d'ailleurs. Non, alors, d'ailleurs, c'est leur droit, vous avez raison, de ne pas se faire vacciner, mais ce n'est pas leur droit de ne pas avoir un pass sanitaire, ce qui est obligatoire. Donc, ils pourraient faire, par exemple, un test tous les trois jours. Mais vous-même, vous risquez peut-être un contrôle et vous risquez une amende.
C'est pas grave.
Elle est de combien, votre amende ?
Je m'en fiche. C'est ma gestion politique. Mmh. C'est ma gestion politique de ce fonctionnement. Quand je dis politique, politos, c'est-à-dire de la gestion de la cité. Ma cité à moi, c'est mon environnement, c'est mon entreprise, c'est ce qui rentre dans mon entreprise et ce qui sort de mon entreprise. C'est ma responsabilité et ma gestion. C'est unique. Et je considère qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être sous le dogme. Et sous la vision dogmatique de ce qui nous décide et de ce qui décide de ce qu'il faut faire et ne pas faire, de ce qui est bien et de ce qui est mal. En France, on stigmatise quand les gens ne vont pas voter et qu'il y a 35 ou 40% de votants en disant « Regardez,
vous savez ce que vous risquez quand même, hein ?»
Oui, une amende.
Ah non, vous risquez une peine d'emprisonnement quand même. Hein.
Eh bien, écoutez...
Un an d'emprisonnement, alors...
Merveilleux. J'aimerais médiatiquement être emprisonné pour cette raison, alors qu'on emprisonne...
Vous risquez d'écoper une peine de 1000 euros, voire 1500 euros, et un an d'emprisonnement, ça c'est la première fois, et 9000 euros d'amende si plus de 3 violations sont constatées dans un délai de 30 jours.
Ça sera un honneur pour moi d'avoir une amende de 1000 ou 2500 euros pour pouvoir... Ça paiera ma vision de la gestion de la crise. Et ça sera un grand plaisir.
Oui, mais je vous assure, vous dites ça, mais si vous retrouviez derrière les barreaux, c'est pas rigolo. Hein, et puis
non,
ça...
Je peux
entendre tous les arguments, je vous assure. Et puis je déteste être dans la position de celui qui donne des leçons, etc. D'autant que sur le pass sanitaire, j'ai, comme vous, des restrictions. Je trouve que le pass sanitaire en terrasse, faut sans doute pas exagérer. Il y a des choses qui me frappent comme vous. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des checkpoints dans des cités de Marseille, on ne peut pas rentrer sans montrer son identité. Et si on n'est pas de la cité ou si on vient simplement pour regarder, on ne peut même pas rentrer dans la cité. Et puis là, personne ne fait rien. Et puis d'un autre côté, il faut un pass sanitaire pour... faut un pass sanitaire pour aller en terrasse. Donc je suis comme vous. Mais en même temps, moi, je me mets toujours sous la légalité. Je peux discuter avant, mais une fois que la loi est votée, je suis plutôt et même complètement légaliste. Je n'imagine pas me mettre en dehors des clous de la société.
Il y avait des lois sous le régime de Vichy que certains ont transgressées et que l'on a plus résistant.
Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est là non plus que ces arguments-là, je veux dire, je ne les partage pas quand je vois certains qui font... C'est pour ça que c'est des sujets compliqués, quand j'entends certains qui disent dictature, quand je vois certains qui comparent le pass sanitaire à l'étoile jaune, je vous assure, ça me donne la nausée, pour le coup, et ça me met en colère, parce que faut savoir raison garder, mais je vois bien que c'est des débats là aussi qui sont très tendus, qui sont très difficiles à mener. Bon, restez en tout cas avec nous, Michel, parce que ce que vous dites est intelligent pour le coup, et puis vous le dites bien d'une certaine manière, et ça, ce que vous dites peut s'entendre, même si, je le répète, vous êtes en dehors de la légalité. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Merci Michel pour votre témoignage. Mais restez avec nous parce que Yves, qui est cuisinier, vous écoutait et peut-être veut-il vous apporter la contradiction. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Pascal. Ça va ?
Ça va très bien et vous ? Vous avez entendu ce que disait Michel ? Est-ce que vous avez été convaincu ?
Pas du tout. Alors moi, je suis pour le pass et pour la vaccination. Je suis vacciné depuis 8 mois. Nous sommes partis en vacances. Ça s'est merveilleusement bien passé. Ceux qui disent blabla, ça va prendre du temps et tout, c'est faux. Nous étions à Saint-Malo. Je peux vous garantir qu'à la SNCF, on peut leur donner... Alors là, pour une fois, on va pas les critiquer, loin de là. Ça s'est très bien passé, ça va très vite avec le nombre de gens qu'il y avait dans les gares. Il y avait deux contrôles, le premier pour le pass sanitaire, le deuxième pour les trains. Ce sont des QR codes pour rentrer dans le train, donc il y a double contrôle. Tout le monde est vacciné. Où on perd sa liberté, on la perd pas. Quand on passe dans un bus, un train, quelque chose, on montre le ticket. Là, vous montrez votre passe et c'est très bien.
Ah, c'est pas la même chose quand même.
Non, d'accord.
C'est pas la même chose de montrer d'acheter un ticket que d'être obligé de se faire vacciner pour entrer dans un restaurant.
Bien sûr, ça permet la liberté. Maintenant, on allait au restaurant ou le matin ou le soir. Donc, sur 12 jours, on a été une fois sur deux. Ou le matin ou le soir. 4 restaurants sur 5 contrôlent. Par contre, il y a un restaurant, c'était marqué contrôle et tout, ils ne le faisaient pas. Alors moi, au départ, je voulais partir. Mais, parce que je ne voulais pas ton contact. Mais c'était bien respecté. Et mes amis qui étaient avec moi, ils m'ont dit, écoute, on va
mais
le
oui,
faire.
Mais c'est ça qui est terrible. Vous vous rendez compte, vous imaginez quitter un restaurant. Alors, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais on sent bien que la société est tendue. Vous ne voulez pas être avec des non-vaccinés.
Ah non, et je ne veux pas travailler avec des non-vaccinés. Et chez nous, personne ne rentre, et déjà depuis un mois, sans être
vacciné.
Hein.
Vous êtes cuisinier. Non, mais
et
vous,
dans un centre de réadaptation. Ouais. Et je trouve normal qu'on se fasse vacciner. Les 200 000 qui sont dehors, on va les mettre à 200 000. Mmh. Elle est où la perte de liberté? Ça te prend 30 secondes. 30 secondes. Mais c'est une épidémie.
On a le droit de ne pas vouloir se faire vacciner. Moi, je le suis, je le dis d'autant plus, mais on a le droit quand même de respecter les gens
non,
qui ne veulent pas se faire
parce
vacciner.
Parce qu'on n'a pas le droit de contaminer les autres et quand on va dans un
mais
train,
vous les contaminez. Mais j'entends ce que vous dites, mais vous les Pascal. Contaminez encore quand vous êtes vacciné.
Mais Pascal, on ne fera pas de forme grave et on peut contaminer
mais
les
autres. Mais ça n'a rien à voir.
Je n'ai pas envie de contaminer ma gosse de 11 ans.
Vous n'avez pas entendu ce que... Quand vous êtes vacciné... Quand vous êtes vacciné, vous transmettez encore le virus.
Mais on n'a pas de forme grave.
Mais vous ne transmettez pas un virus qui va donner une forme moins grave ou pas. Ça, c'est la personne qui fait une forme grave. C'est pas, vous ne transmettez pas un virus plus faible parce que vous êtes vacciné,
non,
Yves.
Mais vu que j'ai déjà ce virus, puisque c'est un virus qu'on nous met. Mais dans ce cas-là, quand on se fait vacciner contre la grippe depuis des années, et moi j'ai vu des gens se faire amputer il y a quelques années parce qu'ils avaient à cause de la grippe. Bon, ils avaient d'autres choses, mais à cause de...
C'est pas fréquent,
les vaccins.
Non, mais tout est possible en médecine, mais convenez que la grippe, les gens qui sont amputés à cause de la grippe, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent.
Non, mais je suis d'accord, mais il faut pas que ça arrive. Ça veut dire que les vaccins, ça veut dire que les virus, et ça va, c'est pas fini avec le changement climatique, ils mutent, donc ils sont de plus en plus forts, donc les chercheurs, ils se sont mis d'un seul coup, ils se sont levés, ils ont dit, il y a le truc qui arrive là, le coronavirus, on va bosser. Ben non, ça faisait déjà 10 ans qu'ils savaient. Ils étaient en train de l'améliorer. Ceux qui ont un doute, c'est un peu les mettre aussi pour des je sais pas quand ils doutent.
Vous pensez que le vaccin était préparé avant, c'est ce que vous êtes en train de me dire?
Il n'était pas préparé, il travaillait déjà, il connaissait le coronavirus.
À vous penser.
Après, il s'améliore.
Non, tout le monde est devenu épidémiologiste, parce que ça, personne ne le dit. En revanche, si vous étiez dans un train, vous m'avez dit, pour partir pour Saint-Malo?
Oui.
Est-ce que vous avez entendu la petite annonce que j'ai entendue tout à l'heure et que j'ai dite à l'antenne? Est-ce que la planète vous a remercié? Vous avez entendu cette annonce, non?
Non, pas du tout.
Ah ben moi, j'étais dans un train, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la planète m'a remercié.
Vous avez peut-être remercié votre personne, Pascal.
J'étais dans le petit wagon et la planète vous remercie d'avoir choisi le train qui consomme moins ou qui perturbe moins la pollution, j'ai entendu ce week-end. Bon.
Non, non. Par contre, je voulais dire quelque chose.
Dites, et après Michel va vous répondre peut-être, s'il le veut.
Quand, par exemple, des gens qui ont plus de 80 ans ont dit qu'ils ne sont pas vaccinés, est-ce que vous savez pourquoi? C'est simple, c'est à la base. Ben, c'est simple. Mon beau-père vient d'avoir 91, ma belle-mère 85. Ma belle-mère a eu une seule dose et mon beau-père les deux. Pourquoi se sont-ils fait vacciner? Ben, c'est simple. Et pourquoi en France, on a des gens de 80 ans qui ne seront pas trop vaccinés? Ben, c'est simple. Eh ben, moi, je vais vous répondre et c'est logique. Parce que ces gens-là, ils se disent... Ben, mourir de ça ou d'autre chose, on s'en fout. Par contre, s'ils se sont fait vacciner, mon beau-père peut en témoigner à 91 ans, il l'a dit, c'est pour voir les enfants, les petits-enfants. Ce qui leur a manqué, je peux vous dire, le premier confinement, c'est pas d'être confiné, parce que quand on est confiné dans une maison, qu'on habite en montagne et qu'on se promène, c'est un bon confinement. Et puis, à 91 ans, on en a vu d'autres, avec les grippes espagnoles et tout. Par contre, de pas voir les autres, et il n'a pas envie de contaminer ses petits-enfants. Mmh. Voilà.
Bah oui, non, mais pour les formes graves et puis pour les gens fragiles, ça, il n'y a pas de souci. Merci. Yves, peut-être Michel vous écoutez, peut-être a-t-il envie de répondre, mais il répondra peut-être après la pause. Ça sera le débrief également à vers 14h25, généralement, avec le camarade Tessier. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Elle peut répondre peut-être à ce que nous disait Yves il y a quelques instants.
Oui.
Michel.
Oui, oui, rebonjour. Mais en fait, Yves, j'entends ce qu'il dit et je ne cherche pas à le contredire. Il a sa vision, sa version. Je crois qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de faire du prosélytisme pour la vaccination. Encore une fois, je suis vacciné. Aujourd'hui, la question, c'est de considérer que nous pouvons vivre ensemble ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, en sachant qu'aujourd'hui, ceux qui risquent le plus, c'est ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont vaccinés, s'ils transmettent, ils sont porteurs sains ou pas sains du virus et qui le transmettent, ce n'est pas leur propre responsabilité puisqu'ils sont vaccinés. Tout repose sur les non-vaccinés qui doivent assumer leur choix et leur responsabilité. Donc je pense qu'il faut repenser notre société et la responsabilité de chacun, vivre normalement dans les commerces et les activités, au travail, dans les cadres, et que les non-vaccinés ne viennent pas, par contre, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, chercher la justice de notre pays en disant « on ne nous a pas assez dit qu'il fallait se faire vacciner, etc. J'ai eu mon frère qui est mort, j'ai été ceci, j'ai été cela. » Donc aujourd'hui, la responsabilité, elle est là. Elle est de dire « revivons normalement les uns avec les autres, avec les choix des uns et les choix des autres ensemble, en sachant que ceux qui ne se font pas vacciner ont leurs arguments, leurs visions, mais qu'ils doivent assumer le risque. Et je crois qu'en France, on est toujours sur l'état-providence, toujours vouloir se faire protéger, ne pas savoir prendre sa responsabilité, toujours avoir besoin d'aide, de ceci, de cela. Bon, ça fait 2 ans maintenant que le Covid est là. Tout le monde parle, les médecins, les praticiens, les épidémiologues, les épidémiologistes, etc., etc. Tout le monde est au courant de tout. Tous les médias en ont parlé, audiovisuel, radio, écrit, etc., etc. Maintenant, tout le monde sait le fonctionnement. Assumons. Soyons dans une société française qui assume ses choix. Nos politiques ne savent pas assumer leurs choix. Nous, Français, acceptons que nous puissions assumer nos choix et décider comment nous désirons vivre en étant vaccinés, en étant vaccinés, mais en tout cas en vivant tous ensemble.
Eh bien, merci Michel, merci de votre témoignage. Comme il reste quelques secondes avant le débrief, on va peut-être être avec Mathieu, parce que Mathieu, il est agriculteur dans l'Aisne, et hier soir, il était au match où il a vu Messi.
Bonjour Pascal.
Mathieu, vous avez vu Messi comme Philippe Sanfourche chez Nicolas Georgerot, vous l'avez vu de près, en vrai, comme on dit.
En vrai, c'est
un peu... Oh, ça c'est formidable.
Je suis francilien, donc parisien de cœur, mais ouais. J'habite Reims. Donc en fait, j'allais pour le match avant de savoir que Messi serait là, et c'était la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Voilà.
Bon, comment vous avez trouvé ça ?
Eh bien écoutez, certains vous diront, c'est quand même étonnant, un club qui, le Stade de Reims, qui applaudit un joueur adverse. Mais bon, il faut se rendre compte de la dimension quand même de ce match, et de la dimension et de la chance qu'on a d'avoir une perle comme Messi dans le championnat de France. Je pense que ça va faire rayonner, et c'est je trouve ça très très bien et très pertinent. Voilà.
Bah écoutez, oui, moi ce qui m'étonne, c'est que c'est formidable d'accueillir Messi, mais perdre Mbappé, si dans le même temps t'as gagné Messi et que t'as perdu Mbappé, t'as gagné un joueur qui a 2 ans de vie au PSG, t'en as perdu un qui peut être là pendant 10 ans.
Je suis assez d'accord. Ouais, mais Mbappé, c'est vrai que ce serait une grosse perte parce que il est jeune, il a de la fraîcheur. C'est quelqu'un de très professionnel qui a été beaucoup critiqué cette semaine. Je trouve ça un petit peu dur parce que aujourd'hui, c'est un joueur, il y a 6 ans, qui était en passe de peut-être rejoindre déjà le Real de Madrid. Il est passé par Paris parce qu'il est parisien, voilà, jusqu'au bout des ongles, je pense. Mais son plan de carrière est défini. Et on voit des joueurs parfois qui, à la veille d'un mercato, font la grève du banc, refusent de se présenter aux entraînements. Hier, on a vu quelqu'un qui était étincelant, qui était très professionnel, qui était bon, qui a marqué un doublé. Et je trouve ça un petit peu dur le procès qu'on lui fait, parce que pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a une ligne de conduite et qui lâche rien, quoi. Donc on sera content de le retrouver en équipe de France, si tant est qu'il soit transféré, hein, c'est pas encore fait, mais on l'applaudira encore prochainement en équipe de France. Donc voilà, toutes les critiques, je trouve que c'est un peu du blabla pour pas grand chose, parce qu'on a la chance d'avoir vraiment un joueur qui...
Ouais, mais s'il s'en va, ça c'est pas des critiques, s'il s'en va, c'est factuel, hein.
Eh bien, écoutez, les cycles sont faits ainsi. C'est vrai que c'est dommage.
Ah, c'est un petit cycle. Un âgé pour et il est de 1998, il a 23 ans. Il a même pas 23 ans. Il aura 23 ans en décembre. Bon, en tout cas, c'est pas fait encore. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci.
Il est 14h24, Laurent Tessier. C'est le premier débrief de la semaine. Ça avait été l'an passé, j'allais
dire. Peut-être le
dernier. Non. Ça avait été un vrai succès. Et c'est un rendez-vous que je ne manquerai sous aucun prétexte.
Eh bien, restez là.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Un sujet a suscité beaucoup de réactions au standard et sur nos réseaux sociaux.
Vroom vroom.
Oui, faut-il limiter la vitesse à 30 km/h en ville? Paris se lance dans l'aventure aujourd'hui et ce n'est pas du goût de Didier.
C'est du pur racolage électoral. Madame Hidalgo racole du côté des écolos et des rois de la mobilette, du vélo.
Ouais, une mesure qui a le don de l'énerver, autant aller plus loin tant qu'on y est pour Didier. Sa proposition pleine d'ironie, c'est...
D'interdire carrément la circulation dans les grandes villes et puis on gagnera du temps. On est
pas
à 80 sur les...
Effectivement, ah ben non, mais on va y là c'est radical.
Que... Ah oui, on va très loin. Des propos que ne partage pas Véronique Aumont. Non, là, les 30 km/h sont légitimes.
On dit toujours, oui, mais notre société, on va trop vite, etc. Et dès qu'on dit, on va baisser la vitesse, ah, tout le monde crie. À un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Moi, je suis allée dans Paris la semaine dernière, 3 jours, j'ai redécouvert Paris. Quasiment plus de voitures, pas de touristes.
Oui, c'était particulier quand même. Vous êtes arrivée le 20 août, Véronique.
C'est vrai que l'été, Paris est très calme, Pascal.
Paris sans les Parisiens, je vous confirme, c'est très agréable.
Oui, oui.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez, Pascal. Vous n'êtes pas très chanson.
Si on pouvait ne plus entendre Joe Dassin à Paris à vélo, si je pouvais, il y a des chansons comme ça, on pourrait peut-être, où on met 10 € dans le nourrin.
Non, mais pas vous, pas maintenant. Bon, allez, si on peut vous faire plaisir, on est un peu vicieux. Musique, Damien Béchiot, notre réalisateur.
Dans Paris, à vélo,
Non, plus sérieusement, j'ai une petite idée sur ce qui vous travaille en ce moment. La météo, et on peut vous rejoindre, oui, on se fait avoir.
Il y a du soleil dans la semaine, mais quand le week-end arrive, il fait pas
attendez,
bon.
Déjà,
et quand,
y a du
et quand les vacances
semaine.
Sont terminées, le soleil arrive.
Ah non,
c'est vraiment,
des
c'est bien. Vous
pour la rentrée
exprès,
scolaire,
en fait.
Il va faire beau.
Oui, mais bien sûr, je fais
c'est
exprès.
Important.
Faut se remotiver pour revenir travailler, mais non, j'y suis pour rien.
C'est cela, oui. Ouais, c'est cela, oui.
Et vous n'hésitez pas, Pascal, à vouloir prendre l'air, à voyager de nouveau.
Voyage, voyage.
On peut demander à qu'RTL soit délocalisé à Noirmoutier, hein, ça ne me dérange
oui.
pas, ou à La Baule.
Hein,
je veux bien y aller.
Dans le sud,
ou dans le sud, si vous voulez. Hein, moi, il n'y a pas de problème, on y va tous, ou à Ajaccio. Ouais. Hein. On peut tous faire l'antenne à Ajaccio, ça sera très sympa.
Mais...
Tous ensemble à Ajaccio. Alors, surtout que la France vous remercie en ce moment.
Les fabuleuses histoires de Pascal Pro.
Un nouveau rendez-vous dans le débrief des auditeurs en la parole. Que s'est-il passé ce week-end?
Vous savez que je vais vous raconter une petite histoire. J'ai pris le train pour Angoulême. Ce week-end. Et quand je suis arrivé à Angoulême, c'est la première fois que j'entends ça, dans le train, il y a eu une annonce par le conducteur, sans doute, qui a dit « La planète vous remercie d'avoir pris le train. La planète vous remercie d'avoir pris le train. » Donc j'étais très content parce que la planète m'avait remercié.
C'était vraiment très intéressant.
Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson que déteste la mairie de Paris avec les 30 km/h.
Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre.
Quoi, cette chanson
Laurie, je suis remonté loin. Hein.
Ouais. Non, je pensais que vous auriez passé de Tino Rossi. Ayaccio, Ayaccio, fais les garçons. Vous connaissez pas cette chanson?
Magnifique.
Ajaccio, ouais. Vous connaissez pas Tino Rossi?
Ah, bah quand même,
il est mort en 1983, Noël, donc dans ma génération, on connaissait les chansons de Tino Rossi. Il y avait également Chichi, un jour tu seras père. Vous connaissez Chichi? Il y avait plein de chansons qu'on chantait avec l'ami Eugène Saccomano parfois. Ce soir, Ayaccio.
Au son des guitares viennent filles et garçons.
Sur la route du Sanguinaire, on peut visiter, je crois, la maison de Tino Rossi. On salue nos amis d'Ajaccio. La ville impériale, 14h28. Monsieur Richard. Ayaccio.